Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore les nouvelles façons de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast, on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Génération Remote, on reçoit Elodie Ramasamy. Salut Elodie, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Salut, moi je m'appelle Elodie Ramasamy, donc j'ai 39 ans. J'ai entamé une reconversion dans le développement web. Enfin, c'est une reconversion, c'est un retour plutôt, parce que j'avais déjà passé un BTS communication visuelle il y a très longtemps. Pour faire infographiste, justement. Aujourd'hui, ça se dit designer UI/UX. Et là, aujourd'hui, je me reviens plutôt vers le code, donc. Et c'est un retour aux sources, en fait, je dirais. J'ai commencé il y a très, très longtemps. J'avais 6 ans quand mon père m'a offert mon premier ordinateur. Je passais des journées à coder dessus. Enfin, bref. En gros, c'est un retour à mes premières passions.
OK. Et donc, le sujet du podcast du jour, ça va être comment est-ce que on fait pour accueillir une stagiaire comme toi ? Dans une entreprise comme la mienne, t'as été stagiaire avec moi pendant quelques semaines le mois dernier. Moi je suis basé en Martinique et toi t'es basé à Paris. Le sujet du podcast ça va être comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des conditions d'accueil d'un stagiaire et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on a travaillé et ce genre de trucs. Donc peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi ? Comment est-ce que tu as ressenti les choses ?
Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, fun fact, ça a commencé peu après mon retour en France. J'étais en Martinique avant ça. Je trouve ça assez marrant de dire à tout le monde, en fait, j'ai trouvé un stage en Martinique alors que j'y étais il y a 2 mois. Ça s'est très très bien passé. Je suis assez contente parce que... Je me doutais un petit peu déjà que ce serait le cas, mais je pense que le télétravail, ça me convient très bien. Parce que je suis quelqu'un que je sais travailler en équipe, j'ai déjà travaillé en équipe, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Mais lié au fait de... Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Donc, travailler dans mon coin, c'est quelque chose qui me convient très très bien aussi. Donc, le télétravail, ça lie un peu les deux et c'est quelque chose que j'aime bien, en fait.
Et ok. Donc. Alors, pour tout te dire, moi, j'ai été un peu étonné. Je me suis dit de prime abord, waouh, un premier stage avec quelqu'un qui a jamais fait de télétravail et qui a non plus jamais codé, donc c'était ton premier stage comme dev, ça va peut-être être un peu difficile. Et en fait, j'ai eu le même ressenti, c'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que ça a roulé relativement facilement et que il n'y a pas eu de difficulté majeure sur le fonctionnement du stage. On en a pas mal discuté sur ce podcast avec des gens, par exemple l'épisode précédent avec Olivier Binet qui est un manager d'une grosse start-up. Il disait lui que donc ils sont en full remote et il disait nous on prend que des gens qui sont expérimentés. On prend pas de juniors parce que les juniors c'est trop compliqué à gérer en télétravail et on va pas y arriver.
D'accord.
Alors du coup, je me suis posé la question en pensant à toi. Parce que justement, ce stage, c'est plutôt bien passé. Et je me suis dit, alors déjà, est-ce que t'es considéré comme une junior ou pas ? Est-ce que le fait que t'aies 39 ans et pas 18, ça a changé quelque chose ? Et peut-être, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et ensuite, je sais que t'es une gameuse et que tu joues en ligne. Et est-ce que tu penses que ça a joué ?
Alors, je suis une gameuse, mais je joue pas en ligne, par contre. J'aime pas ça.
Ah.
J'aime pas ça du tout, jouer en ligne. Parce que, le jeu vidéo, pour moi, c'est que j'ai grandi en jouant toute seule, donc je me suis pas habituée à jouer avec d'autres personnes en ligne. Et j'aime pas ça. J'ai essayé World of Warcraft et en fait, non, ça me plaît pas. Même moi, en général, j'aime pas ça. Donc, j'ai pas trouvé encore de jeu en ligne qui me corresponde en tant que joueuse. Mais, sinon, ouais, non, du coup, ça m'a rien apporté, mais j'ai l'habitude de communiquer en ligne, par contre. Et du coup, c'est ça qui m'a pu s'aider. J'ai l'habitude de... Et comme j'ai pas grandi avec Internet, donc les communications, ça se faisait par téléphone. Déjà, c'est en soi quelque chose... C'est de la communication à distance. Donc déjà, c'est quelque chose avec laquelle j'ai déjà eu des facilités. Mais Peut-être effectivement que mon âge a joué parce que j'ai moins de, je sais pas, je saurais pas dire exactement. Après, bon, ma formation s'est faite aussi à distance, donc j'ai eu le temps de m'habituer à ce rythme-là d'être à distance avec d'autres personnes, à travailler à distance en dehors d'une salle de
Ok.
classe, quoi.
C'est intéressant. Parce que ouais, du coup, moi je suis en Martinique, toi t'es à Paris, donc à l'époque il y avait 5 heures de décalage. Et moi je me levais pas à 3 heures du matin. Euh,
Ah non.
je, je, je commençais à 7h30, 8h à peu près comme tout le temps. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que toi t'as eu du mal à gérer ou pas? Parce que je sais que typiquement, il y a des fois où tu pouvais être bloqué le matin pour toi, et moi je dormais, donc tu devais avoir du mal à... Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu as bien vécu? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû adapter dans ta pratique ou pour que ça roule?
Ben, du coup, le matin, c'est vrai qu'il y avait des fois où j'étais un peu bloquée, mais en fait, je faisais comme d'habitude, quand je suis bloquée, je cherche. Donc, le matin, c'était, quand
Ouais.
j'arrivais pas à faire quelque chose, je cherchais, j'allais voir la documentation sur Internet, j'essayais de me débrouiller toute seule, je regardais des vidéos aussi, parfois, quand j'avais vraiment des gros manquements. Sinon, non, je me débrouillais le matin, et, ben, quand c'était en HTML, CSS, ça allait, je pouvais me débrouiller vraiment toute seule, parce que c'est des langages desquels j'ai l'habitude, que j'avais déjà appris, enfin, que j'avais déjà touché quand j'ai fait mon BTS communication visuelle, même si bon, c'était du HTML3 à l'époque. Donc, l'HTML5, il a fallu que je réapprenne. Sinon, c'est vrai qu'après, quand on est passé à Svelte, c'était plus compliqué parce que c'était un framework que je connaissais pas du tout. Donc, il a fallu vraiment que là, j'ai eu un travail de recherche et d'apprentissage qui était plus poussé pour la deuxième semaine de
Ouais.
stage.
En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est de mon côté à moi, pour essayer d'atténuer ce côté décalage horaire et le fait que je sois pas joignable le matin, en gros. J'essayais de donner à manger des trucs qui soit simple, que tu sois capable de faire à peu près seul, sans être bloqué vraiment vraiment durement, de façon à ce que le matin tu puisses, si tu arrivais pas à être bloqué, passer à autre chose et passer sur de l'intégration qui serait plus simple. Et ensuite, l'après-midi, on essayait de faire des trucs un peu plus compliqués avec de la logique, de l'algorithmique et tout ça, qui était sur lequel tu peux potentiellement être bloqué, mais normalement j'étais joignable. C'était un peu l'idée du truc, et en fait ça a plutôt bien marché. J'ai pas vraiment de souvenirs, je sais pas toi, mais moi j'ai pas l'impression que t'aies été vraiment bloqué en mode hardcore une demi-journée, quoi.
Non, ça allait. Il y avait des fois où, c'est vrai que, comme le JavaScript, c'est un langage avec lequel, enfin, j'avais des retards, un, deux, trois. J'avais des retards, des lacunes en JavaScript quand j'ai fait ce stage.
Ouais.
Et du coup, ben, ça m'a permis de rattraper un petit peu mon retard, de comprendre un petit peu mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai pu vraiment, me rattraper, là, sur le mois qui est passé, j'ai pu me rattraper mon retard et acquérir des bases qu'il faut. Mais à part ça, j'ai pas eu plus de difficultés. Enfin, j'ai eu des difficultés, bien sûr, mais ça allait. J'ai quand même pu avancer, sans être trop frustré, on va dire.
Est-ce que tu penses que si on avait été en si tu avais été en Martinique et qu'on avait pris un bureau à deux, tu penses qu'on aurait mieux avancé? Tu penses que tu aurais appris plus de trucs ou au final pas tant que ça?
Je saurais pas dire. Bah, je t'aurais probablement de plus appelé à l'aide parce que effectivement, bah, comme le JavaScript, j'avais du mal en JavaScript et Svelte, je connaissais pas du tout. Ouais, peut-être qu'on aurait avancé différemment, plus vite, je sais pas, mais en tout cas différemment, je t'aurais beaucoup plus sollicité, ça c'est sûr. Hein, ça, je vais pas te mentir.
Ouais, alors de mon côté, moi j'ai essayé pendant tout le long du stage de te dire, n'hésite pas si t'as un problème,
Oui.
harcèle-moi, ping-moi. J'ai vraiment essayé de mettre l'accent là-dessus parce que je sais que être en remote c'est pas forcément facile. Être en remote quand tu galères à comprendre ce que tu fais, c'est encore moins simple, et quand t'as pas d'expérience, c'est même carrément dur. Donc c'est pour ça que j'essayais d'être un peu insistant en mode vas-y, hésite pas si t'as envie de, enfin ping-moi dès que t'as un problème et on saute sur un Meet si besoin, un Google Meet ou un Zoom ou un truc. Même on fait du pair programming si on peut, on a essayé de faire un peu de pair programming
Oui.
de temps en temps. Parce que oui, c'est clair que être côte à côte c'est plus simple de mettre des coups de coude à l'autre en disant tiens j'ai un problème. Et quand t'es en remote tu peux assez rapidement être isolé. Et d'ailleurs est-ce que Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti un peu, cette espèce d'isolement, ou est-ce que finalement ça t'allait? Tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt introverti, que bosser seul dans ton coin ça allait, mais est-ce qu'il y a des moments où c'était un peu pesant ou pas du tout?
Je crois que oui, il y avait des moments où j'arrivais vraiment. Je sais plus. Vers la fin, il y avait un moment où j'avais vraiment, vraiment pas avancé. Ça m'avait vraiment saoulé. Mais sinon, comme je te disais tout à l'heure, comment dire? Mon introversion, en fait, ça m'a appris mon introversion et ma grande timidité que j'avais quand j'étais petite. Ça m'a appris à me débrouiller toute seule. En fait, c'est que j'ai quelque chose, je sais me débrouiller toute seule, et même je m'acharne à essayer de me débrouiller toute seule alors qu'il ne le faudrait pas forcément. Et du coup, parfois, j'essayais d'avancer seule, même si j'y arrivais pas. Je me disais, non, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. En plus, comme j'avais la pression de me dire, en fait, je suis nulle en JavaScript, donc c'était encore pire, donc il fallait que je me dise, je veux y arriver toute seule, il faut que j'y arrive toute seule, parce que sinon, en fait, ma confiance en moi, elle en dépendait un petit peu aussi, je veux dire. Très sincèrement, il y avait de ça aussi. J'étais beaucoup mon ego, en fait. Je me battais contre mon ego autant qu'avec le code, je pense.
Mais en fait, c'est marrant parce que c'est malheureusement quelque chose que tu continues à avoir. Moi, ça fait longtemps que je fais du code,
Ouais.
entre 10 et 15 ans peut-être maintenant. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, je bossais pour une boîte qui était à San Francisco. Et moi, j'étais tout seul chez moi à Lille. Et plusieurs fois, j'ai dû moi aussi me battre contre mon ego et me dire, bon, allez, vas-y, là, il faut que j'appelle à l'aide parce qu'en fait, j'y arrive pas, je tourne en rond, je suis juste en train de perdre mon temps. Et alors, encore une fois, sur ce podcast, il y a très longtemps, au début du podcast, j'ai fait une interview du CTO de Germinal. Il disait que chez eux, ils avaient une règle que j'ai trouvée hyper intéressante. C'est la règle des 20 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, si tu cherches un truc et qu'au bout de 20 minutes, t'as pas trouvé, toute seule, eh ben, t'appelles à l'aide, en fait. Et
C'est vrai que tu m'as
je pense
souvent
que
dit
c'est
ça.
hyper intéressant. Et du coup, j'ai essayé parce que, en vrai, le code, c'est hyper ingrat. C'est hyper ingrat parce que c'est pas facile. Alors, c'est encore pire quand t'es stagiaire, hein, et quand tu débutes. C'est hyper ingrat parce que c'est pas simple. C'est hyper tatillon. C'est-à-dire que si t'as oublié un point virgule, ça fonctionne juste pas. Et c'est quelque chose que tu peux relire 50 fois et ne pas le voir parce que juste t'as la tête trop dedans. Appeler à l'aide, en fait, c'est hyper important. Et même quand t'es stagiaire, en fait, enfin, même quand t'es stagiaire expérimenté, senior avec 15 ans d'expérience, ça change rien, en fait. Il faut appeler à l'aide, quoi. Et en vrai, c'est normal. Voilà. Même si on n'a pas l'impression. Et puis, il y a toujours cette culture du... faut que je me débrouille tout seul, machin. Et en vrai, non, parce que tu vas juste déprimer tout seul, quoi, je pense. Et en remote, c'est horrible. Enfin, en remote, ça peut vite devenir très, très noir comme situation, quoi. J'avais des questions sur le setup, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé. Et même au début du stage, je t'ai même pas vraiment demandé. Comment est-ce que toi tu t'as réussi à t'installer? Comment est-ce que tu as réussi à bosser? Parce que bosser en remote, c'est quand même pas forcément évident non plus, d'un point de vue même matériel, et puis de gérer la coupure entre la vie perso et la vie pro. Comment est-ce que toi tu t'organisais?
En fait, moi, le matin, je me levais vers 8-9 heures, je prenais mon petit déjeuner tranquillement et après je me mettais tout de suite à coder. Et c'est vrai qu'après, le problème que j'ai toujours eu d'ailleurs, c'est que j'ai du mal à m'arrêter. Quand je commence à travailler sur un truc, m'arrêter ne serait-ce que pour manger, j'y arrive pas. Donc les 2-3 premiers jours, j'ai travaillé jusqu'à 22-23 heures, jusqu'à ce que je me dise oui, non, mais je vais plus pouvoir me lever le matin si je continue comme ça. Donc il a fallu que je me coupe. Et en plus, je crois que c'était toi plus qui me coupais que moi. À 18h, tu me disais, bon, c'est bon, t'as fini? Parce que moi, j'étais prête à continuer à chaque fois. Et du coup, ouais, c'est ça le problème, c'est que moi, je sais pas m'arrêter. En fait, c'est un truc qu'il va falloir que j'apprenne à faire, c'est m'arrêter. Quand l'heure est arrivée, arrêter de coder. Faire autre chose, regarder Top Chef,
Bah ouais,
regarder
parce
des
qu'en fait.
vidéos, ou faire autre chose.
Alors, je sais pas s'il faut regarder Top Chef,
Non. Non, non.
mais ouais, c'est hyper important parce que, encore une fois, le code, c'est ingrat parce qu'en fait, des fois, tu as l'impression de pas avancer.
Oui.
Et en fait, tu as des tâches qui, surtout quand elles sont mal définies, qui peuvent te prendre plusieurs jours, en fait. Mmh. Et tu pourrais ne pas dormir, et en fait, ça n'avancerait pas beaucoup plus. Donc c'est pour ça que, et dans ta vie de remote, sur le long terme, c'est hyper important de réussir à couper, parce que sinon, tu vas juste finir par te cramer.
Ouais.
Et faire un burn-out au bout d'un moment, quoi.
C'est ça.
Donc, sur un stage court, c'est pas très important, mais si tu fais 2-3 ans, il y a un moment où tu peux complètement péter les plombs. Et du coup, c'est important aussi de cloisonner. Alors, est-ce que toi, t'avais réussi à cloisonner un espace de travail ou pas?
Non, ici, c'est trop petit, j'ai pas pu faire ça. Ouais. Du coup, non, je travaillais dans mon salon, au milieu du salon, donc... Parfois, ma mère entrait ouais. à la maison alors que j'étais en pleine réunion avec toi, et c'était un peu « Bonjour !» Excuse-moi, maman, je suis en réunion, pardon. Et du coup, ouais, c'était pas... Oui, voilà, c'était pas simple. C'est juste ça qui était pas simple. Mais
Ouais, bah, bon, en fait, moi, j'ai commencé comme ça aussi. J'ai commencé à bosser sur la table du salon.
Ouais.
Et en fait, tu te rends compte que c'est horrible parce qu'il n'y a pas de coupure entre le taf et la vie perso. Mmh. Que effectivement, quand il y a quelqu'un qui ne bosse pas, bah en fait toi tu peux pas bosser non plus parce qu'il est dans le salon à glander et toi tu n'arrives pas à bosser.
Ouais.
Et puis et en termes d'ergonomie aussi c'est juste affreux quoi.
Oui.
Parce que un PC portable sur une table avec une chaise de salon c'est horrible quoi.
Non ça va moi je suis sur une chaise de bureau donc j'ai mon la chaise de bureau dans mon salon et j'ai arrangé comme j'ai un air pincé j'étais obligé de faire en sorte de surélever mon PC. Aussi sur la table du salon. Donc,
okay.
J'ai constamment une boîte à chaussures sur la table à manger, c'est bizarre, mais c'est comme ça.
Ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal.
Ouais.
C'est le minimum vital pour avoir un truc à peu près ergonomique.
Voilà.
Ok. Et du coup, au niveau des outils qu'on a mis en place, ouais. Alors je me suis pas vraiment creusé la tête pour le stage, pour être honnête avec toi.
Ouais.
On avait juste un Discord qui nous permettait ouais. de faire du chat, en gros,
ouais.
et de se passer des liens, des trucs comme ça. Et on faisait du Meet ou du Zoom où on partageait notre écran en live comme ça je pouvais regarder ce que tu faisais, comment tu codais et puis on arrivait à débugger comme ça.
Ouais.
Donc c'est à peu près je pense le setup vraiment minimum du remote.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Est-ce que t'as pensé que c'était suffisant? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont manqué? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aurais voulu rajouter? Voilà, qu'est-ce que t'as pensé un peu du setup tool, on va dire.
Ben, perso, ça m'allait, surtout que ben c'est un setup auquel j'étais déjà habituée. Encore une fois, ma formation, je l'ai fait à distance, donc c'est quelque chose que je faisais tous les jours en fait. Depuis le mois de décembre, c'est quelque chose que je faisais tous les jours. Le matin, je me connecte à Zoom. On va sur Zoom, on va sur VS Code, on code. En même temps, on est sur notre cours sur Zoom et aussi sur Discord parce qu'avec ma classe entre guillemets, on était sur Discord, donc c'est un setup okay. que j'avais déjà maîtrisé depuis 3-4 mois. Non, 2-3 mois plutôt. Donc, perso, ça me convenait comme ça.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation, du coup? Parce que tu as fait toute ta formation à distance, c'est ça?
Oui. Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé à la fois d'être... parce que là, donc d'apprendre avec un prof en remote...
Oui.
Comment est-ce que toi tu l'as vécu et comment ça s'est passé?
Ben alors moi j'ai commencé ma formation le 8 décembre pour faire développeuse web ou web mobile en full stack d'après eux. Alors okay. les deux premières semaines on était en autonomie, on devait regarder des vidéos pour se rattraper en HTML, CSS, introduction à l'algorithmique, etc. Et dans la mesure où personne dans ma classe n'a compris, n'a réussi à suivre, on a dû tout recommencer quand les profs sont arrivés. Donc, en fait, on a perdu 2 semaines parce que...
Vous avez commencé par regarder des vidéos.
C'est ça.
C'est la pire manière de commencer une formation.
Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, au bout des 2 semaines, quand les profs sont arrivés, on a dit, en fait, nous, on n'a rien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre depuis le début, s'il vous plaît? Donc, moi, en fait, la façon dont les cours se passaient, c'est que le prof nous expliquait la marche à suivre. Nous, on suivait et on recopiait en même temps. En fait, il partageait son écran. Il écrivait son code. Nous, on recopiait le code. On essayait de comprendre en même temps ce qu'il faisait. Parfois, c'était pas simple. Il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas forcément à suivre. parce que ça allait vite. En plus, on avait un camarade, un camarade qui est malentendant, donc c'était encore plus difficile pour lui. Il pouvait pas écrire et en même temps écouter. Donc lui, ça l'a un peu mis en difficulté. Lui, ça l'a mis en difficulté clairement. Après, il y en avait aussi qui avançaient beaucoup plus vite que d'autres, donc c'était un peu le rythme. Il était un peu bâtard comme ça. Il y en avait qui interpellaient beaucoup le prof pour revenir sur les trucs. Donc en même temps, ça nous arrangeait parce que parfois on n'avait pas forcément bien compris. Et puis quand il y a un camarade qui interpellait, que le prof reprenait avec lui, en fait, on partageait notre écran à tour de rôle. Quand on n'avait pas compris quand on n'avait pas compris quelque chose, on partageait notre écran. Notre prof nous aidait à corriger et on avançait comme ça. Parfois, ça pouvait être très long, comme parfois ça pouvait aller très très vite. Et en fait, ça a été comme ça pendant jusqu'au jour où on a commencé le stage, en fait.
Donc vous n'avez pas eu de travaux pratiques vraiment tout seul à dire voilà fais-moi je sais pas quoi une boucle fort un machin comme ça vous avez pas eu de c'était à chaque fois lui qui montre et toi qui recopie quoi.
C'est à peu près ça ouais pour on a eu quelques petits exercices à chaque fois on devait avoir un quart d'heure 20 minutes pour faire un petit truc mais on n'a jamais vraiment eu de gros travaux pratiques de vrais on n'a jamais vraiment pu pratiquer quoi c'était juste sur des bouts de code en fait à chaque fois.
Ok Est-ce que tu penses que si ça avait été en présentiel, ça aurait été mieux? Ou est-ce que c'était... Parce que j'ai quand même un peu l'impression que ta formation était pas terrible.
Non.
Désolé de te le dire comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses que ça aurait été mieux si tu avais été en présentiel ou c'est juste la méthode qui est pas la bonne, en fait?
Je pense pas que ça aurait changé grand-chose en présentiel. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Ouais. Peut-être pour notre camarade, clairement, ça aurait certainement tout changé. Mais je pense que... Non. Vu la classe qu'on avait, non, je pense pas. Parce que, je pense qu'en présentiel, les gens auraient peut-être plus osé dire qu'ils avaient du mal. Parce qu'il y avait vraiment des fois où je me suis rendu compte qu'en fait, on était deux dans notre classe, que ce soit moi ou une autre camarade. Si moi, je disais, au bout d'un moment, si moi, je disais pas, moi, j'ai pas compris, personne disait, j'ai pas compris. Donc je pense que si on avait été en présentiel, peut-être que les gens auraient plus osé dire, parce que le prof serait passé derrière nous pour nous demander ce qui se passe, ouais. Et ils auraient plus osé dire « Ah oui, là j'ai des difficultés à ce moment-là, peut-être j'ai des difficultés là-dessus ». Peut-être qu'on n'aurait pas eu peut-être que cette timidité à dire nos difficultés n'aurait pas été aussi forte. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens, on s'est beaucoup retrouvés à la fin de la semaine de formation avec des gens qui se sont dit « Moi en fait j'ai rien compris ce qu'on a fait cette semaine ».
Mais toute ta classe était sur Discord,
tout le monde était sur Discord.
Y compris le prof.
Alors le prof, ça, on a eu un ou deux profs, ouais, un seul prof qui est allé sur notre Discord.
Ça veut dire que toute la journée, donc de 3h du matin pour toi jusqu'à je sais pas midi, vous aviez Zoom allumé avec le prof qui parle, quoi, c'est ça?
C'est ça. Donc.
Donc c'est à peu près toutes les mauvaises pratiques du monde relayées, enfin sur une seule formation, quoi. Il y a un truc que tu as dit qui est intéressant. Moi, j'avais l'impression, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, j'ai l'impression que lever la main sur un chat en disant « j'ai pas compris » ou prendre la parole, on va dire, sur un chat, sur un Discord, par exemple, ou sur un Slack, c'est plus facile que de le faire en présentiel. Et toi, là, tu viens de me dire l'inverse. Tu viens de me dire que les gens avaient tendance à moins lever la main, en gros, ou moins dire « j'ai pas compris » parce qu'ils étaient en remote. Tu penses que c'est plus difficile de le dire en remote?
Après, je pense que ça dépend des personnes, mais il y avait vraiment, je pense qu'il y a à peu près la moitié de la classe que j'ai absolument jamais entendu.
Ah oui.
Jamais entendu se plaindre, alors que je pense pas que ces personnes, tout le monde était, il y en a que deux, trois, dans toute ma formation, deux, trois personnes qui s'en sortaient vraiment, vraiment bien. Et il y en avait beaucoup qui galéraient. Il y en avait qui galéraient beaucoup et qui interpellaient beaucoup le prof. Et je pense que aussi, les personnes qui osaient pas prendre la parole se reposaient sur ces deux, trois personnes qui galéraient tout le temps et qui demandaient à chaque fois, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez repartir à ce moment-là, s'il vous plaît? Parce que, c'est vrai qu'il y a des gens, il y en a une qui demandait beaucoup la parole au tout début et puis qui a commencé à avoir honte et a arrêté de le faire jusqu'à ce qu'on lui dise demande quand tu comprends pas et qui a recommencé à le faire au bout d'un moment je sais pas trop en fait je pense qu'il y a des gens il y a beaucoup de je sais pas, il y a, c'est peut-être assez intimidant, peut-être aussi l'outil aidait pas parce que quand même parfois il y a des gens qui avaient des problèmes de connexion et qui quand ils partageaient leur écran ça allait plus, du coup peut-être qu'il y avait que ça aussi.
T'as des gens qui doivent finir par être blasés en fait, par dire de toute façon je comprends rien, je suis tout seul chez moi.
C'est ça.
Parler et puis voilà quoi. Ouais, ok.
Oui, en plus comme nos cours étaient enregistrés en plus. J'ai cru comprendre qu'il y en avait qui prenaient le cours et qui reprenaient le week-end.
Ouais,
comme ça.
Okay.
Au lieu de demander, qui réécoutaient le cours le samedi, dimanche, et puis qui avançaient comme ça.
Ok. Bon, c'est l'objet du podcast, c'est pas vraiment la formation de développeurs, mais il y aurait tellement de trucs à dire sur comment est-ce que tu fais pour former quelqu'un, et encore plus comment tu fais pour le former à distance.
Ouais.
Enfin, et faire du remote, que ça soit de la formation ou du taf, c'est pas être sur Zoom 24/24 quoi. C'est horrible de faire ça.
Ouais.
C'est horrible de faire ça.
Oui.
Ok. Très intéressant le retour sur la formation. Écoute, Elodie, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Et je finis toujours l'épisode avec la même question que je change un petit peu en fonction des invités. Quel conseil tu donnerais à un débutant qui va faire un stage en remote, qui va faire son premier stage, et le stage est en full remote, en télétravail.
De ne pas faire comme moi, justement, à 18h, tu t'arrêtes. Quel que soit l'état dans lequel est ton code, à 18h, tu arrêtes. Tu te reposes, tu repenses à ton code si tu veux la nuit, tu fais des cauchemars, il n'y a pas de problème, mais à 18h, c'est fini, ton stage. De toute façon, tu n'es pas payé. Donc, terminer. Voilà, en plus donc voilà, les horaires c'est important aussi, que ce soit en stage, en remote, en télétravail, sur place, les horaires c'est important, c'est aussi pour toi. À midi tu manges, tu t'arrêtes de midi à 13h, tu manges, et à 18h le stage il est fini, tu fais autre chose. Déjà il faut s'aérer l'esprit parce que le code ça peut être vite j'ai pas le mot en français, overwhelming. Tu peux être vite en surcharge en fait, donc autant faire baisser la pression, quitte à revenir le matin, juste prendre le matin tu te connectes, tu codes pas juste, tu regardes ton code et tu vois où il y a des erreurs éventuellement et après tu démarres comme ça tranquille. Pas de pression, pas de stress, de toute façon c'est un stage, t'es là pour apprendre. Si tu fais des erreurs c'est pas grave. C'est surtout pour moi que je suis en train de dire ça.
D'un point de vue, c'est ça. D'un point de vue même plus général que ça, c'est être développeur, c'est un métier créatif en fait. Et donc ça n'a aucun sens de dire il faut que tu sois là de 9h à 18h. Aucun. Je suis d'accord avec toi sur le fait que quand c'est terminé ta journée, faut que tu aies terminé ta journée, que tu t'en ailles et que tu fasses autre chose. Mais en vrai, si tu arrives à travailler 4 heures de focus, de vrai travail productif sur ta journée, en vrai, t'as déjà gagné plus ou moins ta journée. Donc, ça veut dire que si t'es bloqué sur un truc et que tu vois que tu tournes en rond, va faire un tour, va marcher un peu, reviens, et quand tu reviendras, tu vas gagner du temps, en fait, plutôt que juste tourner en rond et te dire que t'es mauvais. Ok. Donc, en fait, ce que t'es en train de me dire, c'est conseil numéro un, j'essaie de cloisonner ma vie perso et ma vie pro, en fait. Je mets pas tout dans la vie pro, quoi. C'est un très très bon conseil. Merci beaucoup Elodie pour cet épisode.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien !